On va reprendre le cycle d'Élie, la sixième partie. Élie, c'est le dernier prophète qui s'exprime dans un pays qui s'est totalement et complètement détourné de Dieu. Et donc maintenant, on va voir la suite. On va voir maintenant comment, dans la pratique, la parole de l'Éternel va s'exercer. Et puis c'est là qu'on va se rendre compte que tout un cheminement qui va se faire, et le Seigneur va accorder les événements à sa volonté. Mais ça ne va pas se faire comme nous on l'imagine, ou comme nous on le pense. Nous on se dit, le Seigneur il a dit à Élie, tu vas voir telle et telle personne, et puis ça va devenir un grand roi, ça va devenir une grande autorité qui va exercer mon jugement. Les choses ne vont pas être aussi simples, et elles vont chacune avoir leur voix, qui est une voix unique, et c'est aussi là, au travers de ces événements, au travers de cette manière d'agir, qu'on peut pénétrer la pensée et la volonté de Dieu. Et c'est là qu'on se rend compte que le Seigneur agit différemment de nous, que le Seigneur, il a une vision différente de la nôtre, et ça nous permet aussi de mieux comprendre notre Père qui est dans le ciel. Alors je vais continuer avec le chapitre 20. Nous avons donc des ennemis, qui sont des ennemis naturels d'Israël. On se rappelle qu'en Israël, le roi qui exerce à ce moment-là, c'est le roi Akab, avec pour femme Jézabel, qui était prêtresse qui venait de Tyr, et que donc, cette femme avait une énorme influence sur Akab, et qu'elle le poussait à aller vers les idoles, qui étaient les idoles des Phéniciens, à rejeter tout ce qui était du culte de l'Éternel et faire en sorte que tout le peuple suive le roi et devienne un peuple idolâtre. Et donc, cette attitude, ce comportement des Israélites, qui est une réaction de l'Éternel, qui les prend en inimitié et qui applique sa loi. Le Seigneur a dit, si vous détournez de moi, si vous ne me suivez pas, vous serez frappés de toutes sortes de malheurs. Si vous persistez dans votre mal, si vous persistez dans vos erreurs, je vous soumettrai au pays d'où viennent ces idoles. Vous ne serez plus libre dans votre pays, vous serez plus libre de me faire un culte à moi, l'Éternel. Mais puisque vous allez tellement courir après les idoles des dieux étrangers, moi je vous soumettrai à ces rois qui, eux, sont des rois qui exercent leur autorité d'un droit divin qui est celui du Dieu tutélaire de ce pays. Et là, en l'occurrence, un des ennemis qu'avait Israël en ce temps-là, c'était les Syriens. Les Syriens, régulièrement, attaquaient Israël. Ils avaient conquis une ville qui appartenait dans le temps aux Lévites, et puis que maintenant revendiquent le roi d'Israël, et puis cette ville c'est Ramoth en Galade, et cette ville était en périphérie, était sur la frontière du pays, et était déjà la première expression de la volonté divine. Le Seigneur a déjà montré que quelque chose n'allait pas. Il a dit, vous voulez aller vers les dieux étrangers, et bien moi je vais vous soumettre à ces dieux-là. Je ne vais pas le faire n'importe comment. Il dit, la ville qui appartient aux Lévites, tribu qui a été mise à part pour le Seigneur, pour le servir, c'était les seules personnes qui avaient le droit d'exercer leur fonction dans le temple. Ils avaient ce droit-là, ils avaient le droit à la prêtrise, parce que ce peuple, c'était une tribu qui a été mise à part pour ça. La première ville qu'ils prennent, qu'ils occupent, c'est justement une ville comme ça. C'est une ville qui appartient à des prêtres. C'est une ville dont, normalement, les gens qui l'habitent sont au service de l'Éternel. Ça, le Seigneur l'enlève, Israël. Il leur prend. Il dit, voilà, mes prêtres, ceux qui m'appartenaient, ceux qui avaient cette ville en héritage dans mon pays, je la donne à l'adversaire. C'est un signe pour vous. C'est symbolique. Ça vous montre que je me détourne de vous. Vous voulez un dieu étranger, vous allez avoir un dieu étranger. Ces Syriens, ils viennent d'où? Vous vous rappelez que le roi Salomon, dans les dernières années de sa vie, s'était détourné du Seigneur. Et puis, à cause de toutes ces femmes qu'il avait, eh ben, il a commencé à adorer et à servir des dieux étrangers, qui étaient le dieu de toutes ces princesses, de toutes ces femmes qui venaient des pays étrangers. Et ça avait irrité le Seigneur. Et le Seigneur a dit, bah, parce que tu as fait ces choses-là, eh ben, je vais te susciter une hostilité, je vais te susciter des adversaires. Déjà des adversaires chez lui, dans sa propre famille, mais aussi autour de lui. Et on se rappelle qu'il y a eu un prince araméen de la famille de Hadad-Désert qui s'était réfugié un moment en Égypte et qui est revenu plus tard dans la région de Damas, dont il finit par s'emparer, fondant le royaume de Damas, qui pendant 2 siècles et demi sera le principal royaume araméen du Levant Sud, annexant au moins partiellement les royaumes araméens de Maaca, Tov, Geshur, dans le nord de la Transjordanie. À cause de ce qu'avait fait Salomon, à cause du fait qu'il s'était détourné du Seigneur, eh bien, l'Éternel a choisi un homme et il a dit, toi, je te choisis, je te oins pour être un roi qui va devenir un grand roi, qui va devenir une nation, qui va s'opposer à mon peuple, parce que tu seras l'instrument de ma justice. Le Seigneur a déjà prévu la manière dont il allait corriger son peuple. Et c'est quelque chose qui s'est fait, qui a été fait de longue date. Ça ne s'est pas fait comme ça par hasard, il n'a pas pris une nation au hasard. C'est vraiment le choix de l'Éternel. C'est Dieu qui a voulu ça. D'ailleurs, on peut même relire ça. Ça va nous rafraîchir la mémoire. On retrouve ça dans 1 Roi 11. Ça va pas nous faire de mal de revenir un petit peu avant, on a le temps. Rien d'autre à faire. 1 Roi 11, 14. L'Éternel suscita un adversaire à Salomon, Hadad, l'Édomite, un descendant de la famille royale d'Édom. Jadis, au temps où David avait combattu les Édomites, Joab, son chef d'armée, avait enterré les morts et tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté pendant 6 mois avec toute l'armée d'Israël en Édom, jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les Édomites de sexe masculin. Hadad, qui à l'époque était un jeune garçon, avait cependant réussi à s'enfuir en Égypte avec quelques Édomites, serviteurs de son père. Ils quittèrent la région de Madian et traversèrent le désert de Paran. Ils entraînèrent avec eux quelques hommes de Paran, puis se rendirent en Égypte chez le pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci fournit à Hadad une maison, lui donna de quoi vivre et lui fit présent d'une terre. Hadad gagna la faveur du pharaon au point que celui-ci lui accorda pour femme sa belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de la reine Tahpénès. Elle lui donna un fils qu'il appela Genubath. La reine Tahpénès l'éleva dans le palais du pharaon avec les fils du roi. En Égypte, Hadad apprit que David était mort et que Joab, son général, était également mort. Il demanda au pharaon l'autorisation de retourner dans son pays. Le pharaon lui dit, pourquoi veux-tu rentrer chez toi? Que te manque-t-il auprès de moi? Rien, lui répondit Hadad, mais laisse-moi quand même partir. Dieu suscita un autre adversaire à Salomon, Retson, fils d'Éliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Tsoba. Retson avait rassemblé des partisans autour de lui, était devenu leur chef de bande au temps où David avait massacré les troupes de son maître. Retson et ses hommes marchèrent sur Damas, s'y installèrent et y prirent le pouvoir. Retson fut l'adversaire d'Israël durant tout le règne de Salomon. Pendant que Hadad s'acharnait contre celui-ci, Retson, devenu roi de Syrie, eut de la haine pour Israël. Nous voyons donc là que l'Éternel choisit un homme, mais pas n'importe quel homme. Déjà, son nom nous enseigne beaucoup de choses. Je vous ai déjà dit que dans la Bible, il y a des choses qui sont inscrites, il y en a d'autres qu'il faut trouver par nous-mêmes, avoir de l'intelligence, nous confier dans le Seigneur et faire en sorte qu'il nous révèle les profondeurs de sa parole. Hadad. Est-ce que ce nom veut dire quelque chose? Est-ce qu'il a une signification? On sait que les noms dans la Bible ont une grande résonance, une grande profondeur, parce qu'ils nous enseignent énormément de choses. Par exemple, Salomon, sa racine primaire qui a construit ce mot, c'est la paix. C'est vraiment été un roi de paix, qui n'avait strictement rien à voir avec David, qui lui était un homme de guerre, qui a fait couler beaucoup de sang, mais son fils, c'était l'inverse. Un roi qui a réclamé de la sagesse, c'est un roi qui a établi la paix dans le royaume. Et donc, les noms des personnages nous apprennent beaucoup de choses. Et donc là, nous avons un homme qui a échappé à la destruction et qui s'appelle Hadad. Et Hadad, c'est pas n'importe quoi. Ce nom, c'était un des principaux dieux des Amoréens, que chez les Phéniciens, par exemple, on appelait Baal. Il avait les mêmes caractéristiques. C'était le dieu de l'orage. C'était le dieu qu'on présentait, qui était debout sur lorsqu'on le sortait de son temple et qu'on le présentait au peuple, on le dressait sur un taureau. C'était donc son image symbolique, le taureau, le dieu de l'orage, le dieu de la fertilité. C'était ce dieu qui était représenté finalement partout dans le croissant fertile, qui avait différents noms, mais dont l'origine était toujours la même. C'était une origine commune. On a vu que tout ça, c'était parti de Babylone, et progressivement, c'était répandu à travers tout le croissant fertile, c'était allé à Canaan, c'était allé chez les Phéniciens, c'était allé plus haut, dans la partie nord du croissant fertile. Tous les pays ont été colonisés, un peu par la culture babylonienne, ont été influencés par cette culture, ils ont repris les dieux, simplement, ils leur ont donné des noms différents. C'était toujours le même dieu, mais chaque fois qu'un autre nom. Et là, en l'occurrence, le dieu Baal, le dieu de l'orage, le dieu de la pluie, chez les Amoréens, qui plus tard, on allait appeler les Syriens, c'est le dieu principal de ce peuple, c'était Hadad. On l'appelait comme ça, on aurait pu dire Baal Hadad. On se rend compte que ce peuple a commencé à se construire, donc, par une décision et par une volonté de l'Éternel. Le Seigneur a choisi un homme qui portait le nom d'un dieu étranger pour aller conquérir une contrée, lui aller donner une certaine dimension, en faire, par ses conquêtes et par ses victoires, un peuple de guerriers qui allait devenir le principal instrument de la volonté de l'Éternel, du jugement de l'Éternel, de la sanction de l'Éternel, parce que les Syriens, par leur action, au travers des siècles, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au départ, ils vont guerroyer contre les rois d'Israël, mais petit à petit, ils vont leur prendre des villes, jusqu'à conquérir complètement le pays. Cette chose-là s'est faite, ça a commencé avec un roi qui, dans l'histoire, s'appelait le roi d'Aram Damas, qui était un contemporain de Jéhu et Joram, roi d'Israël, et puis que ce roi, petit à petit, il va prendre beaucoup d'influence dans la région. Et un de ce roi-là, ça va être le roi qui, du temps d'Élie et d'Élisée, va progressivement exercer toujours plus de pression, va progressivement s'inscrire dans l'histoire d'Israël pour devenir l'instrument de la volonté de l'Éternel. Nous avons donc là des rois qui finalement ne viennent pas du hasard, ne viennent pas de simples conquêtes qui ont été faites comme ça du fait d'une situation géopolitique particulière, mais c'est vraiment le Seigneur qui a construit patiemment et avec constance l'outil qui allait lui permettre de corriger son peuple. Ça n'a pas été fait au hasard, mais c'était vraiment en accord total et complet avec sa parole. Le Seigneur a inscrit dans la loi ce qu'il allait faire, ses bénédictions et ses malédictions, et si les hommes se détournent de lui, il relit les textes de la loi et les met en application. Et donc là, nous avons un homme qui est choisi, qui porte le nom d'un dieu, qui va partir dans un pays, conquérir ce pays, et qui va représenter ce Dieu dans ce pays-là. Ce Dieu étranger va devenir maintenant l'ennemi d'Israël. Nous voyons qu'au travers de ce nom, Hadad, le Seigneur a déjà choisi l'autorité spirituelle qui plus tard, un jour, va venir dominer le pays. C'est ainsi que le Seigneur il agit. Le Seigneur il agit en conformité avec ses paroles. Le Seigneur il agit en suivant des directives que lui-même il a écrites. Il ne va pas à droite, il ne va pas à gauche. Lorsqu'il dit une chose, il l'a fait, mais il ne l'a fait pas n'importe comment, il l'a fait en suivant les principes que lui-même il a édictés. Il a un jour donné la loi à Moïse, et bien, il suit cette parole, il ne s'en détourne pas. Simplement là, nous suivons maintenant sa logique, nous suivons la manière d'agir du Seigneur. Plus tard, c'est-à-dire près de 200 ans après que ces événements se soient passés, ou 100 ou 150 ans, je ne sais pas plus exactement, nous avons donc un de ses descendants, de Hadad, celui qui a commencé à prendre le pouvoir du temps du roi Salomon, qui aujourd'hui, un de ses descendants, vient et combat Israël. Son nom, c'est Ben-Hadad, c'est-à-dire le fils de Hadad. Là, en l'occurrence, on pourrait dire, je suis le fils du dieu de la pluie, je suis le fils de Baal. Donc je représente le dieu de mon pays, le dieu des Syriens. Et donc Ben-Hadad, roi de Syrie, mobilisa toute son armée et assisté de 32 rois alliés, de chevaux et de chars de guerre, il alla assiéger la ville de Samarie et se prépara à lui donner l'assaut. Avant cela, il envoya dans la ville des messagers à Akab, le roi d'Israël, et lui fit dire, voici un message de la part de Ben-Hadad, moi, le fils du grand Dieu. Livre-moi ton argent et ton or, ainsi que tes femmes et les plus vigoureux de tes fils. Le roi d'Israël répondit, à tes ordres, mon seigneur le roi, je me livre à toi avec tout ce qui m'appartient. Les messagers vinrent de nouveau et dirent, voici un message de la part de Ben-Hadad. Je t'ai envoyé l'ordre de me livrer ton or, ton argent, tes femmes et tes fils. J'enverrai donc demain à cette heure-ci mes officiers chez toi. Ils fouilleront ta maison et celle de tes hauts fonctionnaires. Ils prendront tout ce qui a de la valeur à tes yeux et l'emporteront. Alors, le roi d'Israël convoqua tous les responsables du pays et leur dit, vous pouvez constater que cet homme nous veut du mal, car il m'a fait réclamer mes femmes et mes fils, mon argent et mon or, et je ne lui avais rien refusé. Tous les responsables et tout le peuple dirent à Akab, ne l'écoute pas, n'accepte pas. Alors, Akab répondit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as fait demander à ton serviteur la première fois, mais je ne puis céder à tes nouvelles exigences. Les messagers allèrent rapporter cette réponse à leur maître. Alors, Ben-Hadad envoya ce message au roi Akab. Que les dieux me punissent très sévèrement si je laisse subsister de Samarie assez de poussière pour remplir les mains de tous les guerriers qui me suivent. Mais le roi d'Israël dit au messager, allez donc lui dire que celui qui part au combat ne se vante pas comme celui qui en revient. Lorsque Ben-Hadad entendit cette réponse, il était en train de boire avec le roi allié sous les tentes. Il commanda à ses officiers, en position d'attaque, et ils disposèrent leurs troupes pour donner l'assaut à la ville. Là, on compte, nous avons un homme extrêmement sûr de lui, sûr de sa puissance militaire, sûr d'avoir la victoire. Il est en train d'assiéger une ville dont le roi est prêt à tout. Il dit, écoute, je veux tout prendre. Je te laisserai la vie, mais par contre, je vais t'enlever toutes tes richesses. Et dans un premier temps, Akab, il accepte ça. Il se dit, tout ça, je ne pourrais rien faire, c'est pas possible, ils sont trop nombreux, ils sont trop puissants. Je vais céder à toutes ces exigences. Et quand les serviteurs du roi Ben-Hadad viennent pour lui dire les modalités d'application de ce que veut le roi, le peuple lui dit, bah, écoute, non, tu vas pas accepter ça. C'est humiliant, il ne restera plus rien, on sera des esclaves soumis à des maîtres cruels. Non, résistons. Et puis Akab se dit, bah, après tout, ils ont raison, conservons notre honneur et puis résistons à l'envahisseur. Après tout, nous sommes un peuple fort, on les a déjà battus. Il n'y a pas de raison qu'on se laisse marcher sur les pieds comme ça. Et puis, il renvoie donc les émissaires du roi en leur disant, bah non, finalement, n'accepte pas les conditions du roi. Et puis, Ben-Hadad, tellement confiant en lui-même, tellement sûr de la victoire, tellement sûr de sa supériorité militaire, il est en train de festoyer gaiement avec ses amis, avec les rois qu'il a entraînés dans cette bataille, dans cette guerre, et négligemment, il dit à ses généraux, bah, écoutez, il veut la guerre, allez-y, mettez-vous en ordre de bataille, ça sera juste une formalité, ça va être vite réglé cette histoire. Et tout de suite comprendre de quel bois je me chauffe. Et tout ça, dans la gaieté et dans la bonne humeur. Et champagne pour tout le monde, assistant au spectacle, regardant la ville qui brûle et comment mes soldats ils vont massacrer tout le monde. Ça va être un moment absolument fantastique. Le spectacle va être garanti. Donc Ben-Hadad, sûr de sa victoire, attend donc maintenant d'assister à son triomphe. Mais, à ce moment, un prophète vint trouver Akab, le roi d'Israël, et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. As-tu vu cette immense armée? Je vais la livrer aujourd'hui dans ton pouvoir. Ainsi, tu sauras que je suis l'Éternel. Akab demanda, par qui l'Éternel la livrera-t-il? Il répondit, voici ce que déclare l'Éternel. Je la livrerai par les jeunes recrues des chefs des provinces. Akab demanda encore, qui devra engager le combat? Le prophète répondit, c'est toi. Alors Akab passa en revue les jeunes recrues des chefs des provinces. Il en trouva 232. Puis, il recensa aussi toute l'armée des Israélites. Ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad était en train de s'enivrer sous les tentes avec les 32 rois venus à son aide. Les jeunes recrues des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad envoya des hommes voir ce qui se passait. On lui fit ce rapport. Les hommes sont sortis de Samarie, que ce soit pour demander la paix. Au contraire, pour nous attaquer, qu'ils sont sortis. Amenez-les-moi vivants. Les recrues et l'armée qui les suivait sortirent de la ville. Chacun s'acharna contre un adversaire et l'abattit si bien que les Syriens prirent la fuite. Les Israélites se lancèrent à leur poursuite. Ben-Hadad, le roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec d'autres cavaliers. Le roi d'Israël lança le gros de ses troupes et extermina les chevaux et les chars. Il fit subir une grande défaite aux Syriens. Là, nous avons quelque chose d'intéressant. Il y a un changement quand même qui s'est produit en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Élie s'était opposé au roi Akab, où il a fui devant Jézabel, où il est allé sur le mont Horeb, où le Seigneur l'a renvoyé de nouveau dans le pays, il y a eu une profonde modification qui s'est faite dans le pays. À votre avis, c'est laquelle?
Akab a écouté le prophète.
Oui. Mais rappelez-vous ce que Élie il avait dit au Seigneur. Élie il avait dit, je suis le dernier qui reste. Je suis le seul parlant encore en ton nom. Élie il avait dit ça au Seigneur. J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent le roi. Or là, un prophète vient et ce prophète, c'est pas Élie. Nous avons donc là quelque chose qui a changé dans le pays. Le comportement des Israélites a changé. On n'écoute plus Jézabel. On n'obéit plus à ses ordres. Jézabel, eh ben, ce qu'elle avait voulu, c'est imposer le culte de Baal, c'était d'imposer le culte d'Astarté, puisqu'elle avait fait construire un temple dans la ville, et afin d'imposer ses dieux, elle a voulu effacer le souvenir de l'Éternel, et notamment en persécutant et en tuant les prophètes du Seigneur. Et donc, elle les pourchassait, et il n'y avait plus de prophètes dans le pays. Or là, on se rend compte que maintenant, quelque chose a changé. Il y a de nouveau des prophètes dans le pays. Élie n'est plus le seul. Les gens n'acceptent plus, les Israélites n'acceptent plus l'autorité de Jézabel. Ils ne veulent plus lui obéir. Ils se sont rendus compte que le Dieu d'Élie était un Dieu qui était beaucoup plus fort. Que le Dieu d'Élie, c'était un Dieu qui était vivant. Ils se rappellent ce qui s'était passé sur la montagne, quand le feu était descendu du ciel. Ils se rappellent de la sécheresse. Et maintenant, ils sont aussi dans une situation de détresse, parce qu'il y a un royaume puissant qui les persécute, qui est en train de les envahir, et se rappellent aussi comment c'était du temps du roi David. Du temps du roi David, c'était l'inverse, c'était les armées d'Israël qui étaient dans les royaumes alentours et qui s'imposaient. Et là maintenant, c'est l'inverse. Et donc, les gens recherchent de nouveau le secours du Seigneur. Il y a de nouveau des gens qui prient, il y a de nouveau des gens qui rendent un culte au Seigneur. Et on sait, parce que le Seigneur a dit, il y a 7000 personnes qui ne se sont pas agenouillées devant Baal. Il y a 7000 que je me suis réservé. Et ces 7000, n'acceptent pas de servir les Baals, n'acceptent pas de servir les dieux étrangers. Et donc, ils résistent par rapport à l'autorité des étrangers. Et on peut aisément concevoir que ces 7000-là, pour ne pas être sous la domination d'un roi étranger, sont venus se réfugier à l'intérieur des murs de Samarie parce qu'ils ne voulaient pas être sous l'autorité, sous la domination d'un roi étranger qui adore un dieu étranger. Le roi Akab, c'est toujours encore le roi d'Israël. Le roi Akab, c'est toujours encore le roi que Élie veut ramener vers le Seigneur. Rappelons-nous qu'après l'épisode qui s'était fait sur le Carmel, rappelons-nous qu'après avoir égorgé les prophètes de Baal, quand la pluie est tombée, Élie courait devant le char du roi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Symboliquement, ça veut dire que Élie n'enlève pas l'autorité royale sur la tête d'Akab. Élie conserve le trône. Élie conserve l'autorité du roi Akab. Ce qu'il veut, ce n'est pas que le roi Akab meure. Ce qu'il veut, c'est que le roi Akab change, qu'il revienne vers le Seigneur. Et là, cette autorité, ces 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, l'acceptent. Il dit, puisque Élie reconnaît ce roi comme étant le roi d'Israël, nous servirons ce roi-là. Et donc, dans cette ville, il y avait donc 7000 personnes qui étaient toujours encore là. Ce sont les 7000 qui ont aussi dit au roi Akab, ne cède pas devant les exigences de Ben-Hadad, devant ce fils de Baal, devant cet incirconcis, cet ennemi d'Israël, cet idolâtre qui vient nous envahir et puis qui vient prendre nos terres, qui vient voler l'héritage de l'Éternel. Ne lui cède pas, résiste-lui. Nous nous battrons jusqu'au bout parce que nous avons l'Éternel pour nous. Mais c'est face à cette attitude que l'Éternel y répond et qu'il envoie un prophète. Donc en Israël, il y a eu un changement. Un prophète, quelqu'un d'autre qu'Élie, vient et prononce les paroles de l'Éternel. Et il lui dit, ne les crains pas, n'aie pas peur. Je suis avec toi, je vais combattre avec toi. Parce que je suis toujours encore le roi, c'est toujours encore moi qui commande, c'est toujours encore moi qui suis possesseur de cette terre. Je voulais donner un héritage, moi l'Éternel. Et maintenant, je vais vous donner la victoire sur cette immense armée qui est autour de vous. Ainsi, vous saurez que c'est moi l'Éternel, que c'est moi qui commande. Et Akab, cette fois-ci, au lieu de renvoyer les prophètes, et dire que de toute façon ça ne sert à rien, ils sont plus forts que nous, on se rend compte que Akab lui-même avait changé. Akab lui-même n'était plus sous l'autorité, sous la domination de Jézabel. Il écoute de nouveau les prophètes. Il dit, mais comment on va faire? Il ne dit pas, je ne vais pas le faire. Il dit, comment l'Éternel va me donner la victoire? Et lui dit, le prophète lui répond, ça sera par des jeunes recrues. Le Seigneur ne vient pas avec les choses anciennes. Il dit, non, une nouvelle génération vient et tu vas t'appuyer sur cela-là. Ce n'est pas sur les anciens, là, ceux qui te sont proches, tes généraux à toi, et puis etc. Non. Pas ceux-là qui ont baisé les pieds de tes idoles, ou bien qui sont allés se prostituer avec ta femme dans le temple. Non. C'est les jeunes, ceux qui n'ont pas fait ces choses-là. On va prendre les nouveaux, là. Ceux qui me respectent, qui honorent mon nom. C'est ceux-là qui vont être les artisans de ta victoire. Et c'est toi, le roi d'Israël, qui va les mener vers la victoire. Tu seras mon autorité. Et ces jeunes, eh bien, c'est eux qui vont te donner la victoire. Et derrière tout ça, il y aura encore les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est-à-dire, vraiment, l'Éternel va reprendre de nouveau l'initiative et montrer qu'un peuple qui marche avec lui, qu'un peuple qui ne se soumet pas à l'adversité, qu'un peuple qui fait confiance au Seigneur, un peuple qui fait confiance à ses prophètes, qui écoute sa parole, eh ben ça peut tout changer, même dans les situations les plus désespérées. Et donc, cette armée avec des jeunes recrues, sans expérience, eh ben elle sort, elle combat avec le courage que lui a donné le Seigneur, et il gagne la bataille. Le geste victorieux de ces gamins, de ces enfants qui étaient sur le terrain, qui étaient en train de montrer aux autres qu'une victoire peut être accomplie à partir du moment où le Seigneur le dit, eh ben ça donnait du cœur, ça donnait du courage à tout le reste, et toute l'armée est sortie comme un seul homme, et a mis cette immense armée de Ben-Hadad en déroute. Et même le roi lui-même a dû fuir. Ceci étant fait, le prophète vient trouver le roi d'Israël après cette victoire et lui dit, va de l'avant avec courage, fortifie tes positions, examine et réfléchis à ce que tu dois faire, car l'année prochaine, à la même époque, le roi de Syrie reviendra t'attaquer. Les ministres du roi de Syrie lui disent, leur dieu est un dieu des montagnes, c'est pourquoi ils nous ont vaincus. Attaquons-les en pleine et sûrement nous l'emporterons sur eux. Voici donc ce que tu devrais faire. Destitue tous ces rois de leur poste et remplace-les par des gouverneurs. Ensuite, recrute une armée aussi nombreuse que celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et de chars. Puis, nous les combattrons dans la plaine, et certainement nous les vaincrons. Ben-Hadad suivit leur conseil et fit ce qu'ils lui avaient proposé. L'année suivante, à la même époque, il passa les Syriens en revue et s'avança jusqu'à la ville d'Afek pour attaquer Israël. De leur côté, les Israélites furent aussi passés en revue, pourvus de ravitaillement, ils se préparèrent à les affronter. Ils établirent leur camp en face d'eux. Mais leurs troupes ressemblaient à deux petits troupeaux de chèvres, alors que les Syriens couvraient toute la plaine. Alors, l'homme de Dieu vient trouver le roi d'Israël et lui dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. Les Syriens prétendent que je suis un dieu des montagnes et non pas un dieu des plaines. À cause de cela, je livrerai toute cette immense multitude en ton pouvoir. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. » Pendant 7 jours, les deux armées campèrent l'une en face de l'autre. Le 7e jour, la bataille s'engagea et les Israélites tuèrent 100 000 fantassins syriens en un seul jour. Les survivants s'enfuirent à la ville d'Afek où le rempart s'écroula sur 27 000 rescapés. Donc là, les choses changent de nature. La première fois, on restitue la confiance du peuple. Et une fois cette confiance restaurée, eh bien, le Seigneur se fait maintenant une affaire personnelle de régler son compte au Dieu étranger qui ose attaquer l'armée du Dieu vivant. Cette fois-ci, Akab écoute. Akab est aux ordres de l'Éternel. Il suit les recommandations du prophète. À partir de ce moment-là, ah ben, l'adversité qui vient contre Israël, ce n'est plus pour punir le peuple, mais c'est un outrage qu'on fait au Seigneur. Puisque dans l'esprit des Syriens, ah ben, on combat un dieu. Il dit, notre dieu, le dieu Hadad, c'est un dieu guerrier, c'est un dieu des éléments, celui de la foudre, de la pluie, c'est celui qui nous donne des victoires sur nos ennemis, mais le dieu qui est en face de nous, ah ben, c'est un dieu des montagnes. Et parce qu'il est des montagnes, il était dans son avantage quand nous sommes venus combattre. Donc maintenant, on va l'affronter dans la plaine. Et comme ça, notre dieu, le dieu Hadad, ah ben, il va faire la démonstration que c'est lui le plus grand et le plus fort. Et là, le Seigneur dit, à cause de ça, parce qu'ils ont dit que moi, je suis un dieu des montagnes, et à cause de leurs paroles, ben, je vais vous donner la victoire. Cette fois-ci, ce n'est plus des hommes qui combattent uniquement pour une question de territoire, mais nous sommes là dans un niveau supérieur, dans une dimension différente, où l'Éternel s'oppose à l'autorité des dominations angéliques. Nous allons voir que les autorités angéliques qui s'expriment au travers de leurs idoles, hein, qui elles-mêmes rayonnent par leur autorité sur une ville ou bien sur une contrée, voire un royaume, c'est contre ça, maintenant, contre cette autorité-là, que l'Éternel va se battre. Cette fois-ci, c'est une question d'autorité spirituelle. Le Seigneur ne va pas admettre qu'un dieu étranger, qu'une autorité spirituelle étrangère, viennent imposer sa domination sur Israël. Et donc, il va abattre ça. Et là, une toute petite armée minuscule de petits troupeaux de chèvres vont être l'instrument de la justice divine. L'Éternel va montrer au diable de quel bois il s'y chauffe. Et donc, il va utiliser un petit peuple insignifiant pour lui montrer qu'on ne peut pas lui résister, que l'autorité c'est lui. Et pour la deuxième fois, l'armée ennemie est mise en déroute. Et ça, pour la plus grande gloire du Seigneur. Le Seigneur a rétabli son autorité sur les hommes. Le roi écoute, le peuple écoute de nouveau, les prophètes les suivent les recommandations du Seigneur. Et le Seigneur a rétabli son autorité spirituelle sur le pays en chassant ceux qui osent s'opposer à son autorité. Mais chasser le naturel et il revient au galop. Akab restera toujours Akab. Après cette bataille, Ben Hadad s'était enfui et réfugié dans la ville, et il s'y cacha en passant de chambre en chambre. Les ministres lui dirent, écoute, nous avons entendu dire que les rois d'Israël sont des rois pleins de bienveillance. Permets-nous de nous revêtir des habits de toile, de sac, et d'entourer nos têtes de cordes. Nous nous rendrons roi d'Israël, et peut-être te laissera-t-il la vie sauve. Ils revêtirent donc des habits de toile de sac et mirent des cordes autour de leur tête. Puis ils se rendirent chez le roi d'Israël et lui dirent « Ton serviteur Ben-Hadad te fait dire, laisse-moi la vie sauve. » Akab leur demanda « Il est donc encore vivant ?»« Eh bien, il sera mon allié. » Ces hommes prirent cette parole comme un signe favorable et s'empressèrent de prendre Akab au mot. « Oui, lui dirent-ils, Ben-Hadad sera ton allié. » Akab ordonna « Allez le chercher. » Ben-Hadad sortit de sa cachette et vint se présenter à lui. Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, « Je te restituerai les villes que mon père a prises à ton père, et tu pourras établir des comptoirs à Damas, comme mon père en avait installé à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te rendrai la liberté et je conclurai une alliance avec toi. » Il conclut donc une alliance avec lui et le laissa repartir libre. Là, on se rend compte d'une situation un peu surréaliste. Donc le Seigneur a combattu, il a accordé la victoire. Les hommes de Ben-Hadad qui ont fui le combat et qui sont allés se réfugier dans une ville entourée de remparts, une fois qu'ils étaient dans cette ville, les remparts se sont effondrés sur eux. Même là, le Seigneur a agi. Et le roi Ben-Hadad qui s'était réfugié dans cette cité qui désormais était une ville ouverte, où les soldats israélites pouvaient rentrer sans aucune peine, et ils auraient pu faire le ménage là-dedans, ils auraient pu facilement exterminer tout ce qu'il y avait dans cette ville, Akab ne trouve rien de mieux à faire que d'offrir une alliance avec celui qui a voulu le détruire, qui représente le dieu Baal des Syriens, et lui dire, écoute, nous n'allons plus continuer de faire la guerre, au contraire, je t'accorde la vie sauve, et puis je vais te rendre la liberté, et nous vivrons en paix désormais. Et l'autre, dans un geste magnanime, va lui dire, je te restituerai les villes que mon père t'a prises. Donc, c'est hallucinant. Il aurait facilement pu exiger ça de lui, et dire, écoute, tu n'as plus d'armée, tu es mon prisonnier, à partir de maintenant, tu seras mon vassal, et j'exige que tu me restitues les villes que tu as prises, d'ailleurs, à partir de maintenant, elles m'appartiennent, puisque tu m'appartiens. Non, il le restitue dans sa fonction de roi, alors qu'il était son prisonnier. C'est absolument incroyable. Donc là, ça c'est vraiment la nature d'Akab. Akab, c'est le politicien. Akab, c'est le calculateur. Akab, c'est le terrestre. C'est, on peut vraiment dire, l'homme qui ne s'élève pas dans la spiritualité, qui ne recherche pas le contact de l'Éternel. C'est vraiment l'homme, le terrestre par excellence. Celui qui utilise le spirituel quand il peut en tirer un profit, quand ça peut lui rapporter quelque chose. Donc, c'est un type d'homme influençable, quand c'est une femme qui le séduit, c'est un homme qui regarde les choses d'une manière extrêmement terrestre, c'est-à-dire les yeux spirituels chez lui ne sont pas ouverts, il ne regarde pas vers l'éternel, il ne regarde pas vers le ciel, il ne demande pas le conseil du Seigneur, parce que là, en l'occurrence, ce qu'il aurait pu faire, c'est ben, « je te maintiens en prison, et puis je vais consulter le Seigneur pour savoir ce que je vais faire avec toi ben, ». Alors, il prend des décisions. Le Seigneur lui accorde la victoire, il trouve ça tout à fait normal. Et je dis ben, « maintenant, je vais exploiter cette victoire pour mon compte, je vais en tirer ma gloire ». Je dis, ah, c'est moi le victorieux, c'est moi le magnanime, le bon qui rend la liberté au grand roi Hadad. Et donc, il se tire maintenant toute la gloire, il brille sur toutes les nations à l'entour. Et le Seigneur là-dedans, qu'est-ce qu'il est devenu? Le Seigneur, est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on a offert des holocaustes? Est-ce qu'on a fait des libations? Est-ce qu'on l'a remercié? Est-ce qu'on a fait une journée de prière, une journée de reconnaissance? Est-ce qu'on est allé à Jérusalem, sacrifié au temple? Est-ce qu'on a dit merci? Est-ce qu'on allait consulter le prophète pour voir comment on allait faire par la suite? Ah ben non, on prend des initiatives et on a déjà oublié tout ce que le Seigneur il a fait. C'est vraiment un type d'homme très particulier. Après ça, sur ordre de l'Éternel, l'un des disciples des prophètes demanda à son compagnon de le frapper. Mais cet homme refusa de le frapper. Eh bien, lui dit-il, puisque tu n'as pas obéi à l'ordre de l'Éternel, un lion t'attaquera et te frappera lorsque tu m'auras quitté. En effet, quand il le quittait, un lion se jeta sur lui et le frappa. Le premier alla trouver un autre homme et lui adressa la même demande. Cet homme le frappa et le blessa. Alors, le prophète, après s'être rendu méconnaissable en se mettant un bandeau sur les yeux, alla se poster sur le chemin que le roi devait prendre. Lorsque le roi passa, il lui cria, « Ton serviteur a pris part au combat. Pendant la bataille, un homme a quitté les rangs et m'a amené un prisonnier en disant, « Surveille-moi cet homme. Si tu le laisses s'échapper, tu prendras sa place. Ou bien tu devras me verser 3000 pièces d'argent. » Or, pendant que j'étais occupé ça et là, le prisonnier a disparu. Le roi d'Israël lui dit, « Tu as prononcé toi-même le verdict. » Aussitôt, le prophète enleva le bandeau qui lui masquait les yeux. Et le roi d'Israël reconnut que c'était un des disciples des prophètes. Il dit alors au roi, « Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as laissé échapper d'entre tes mains l'homme que je m'étais voué. C'est pourquoi tu prendras sa place et ton peuple périra à la place du sien. » Le roi d'Israël rentra chez lui maussade et abattu. C'est ainsi qu'il regagna sa main. Donc là, on apprend de nouvelles choses, notamment que les prophètes, aujourd'hui, peuvent de nouveau exercer leur activité en toute liberté. Et, en général, ce qui se faisait en ce temps-là, c'est qu'il y avait des écoles de prophètes. Un certain nombre de personnes les rejoignaient et on leur enseignait comment obéir au Seigneur et le représenter. Dans le royaume d'Israël, il y avait donc de nouveau des prophètes avec des disciples qui exerçaient et qui pouvaient le faire librement et qui étaient connus du roi. Puisque là, on nous apprend que le roi Akab a reconnu les disciples. Donc ça veut dire que dans sa proximité, dans sa cour, dans la ville même de Samarie où il était, eh ben, ses prophètes étaient présents. Ses prophètes étaient là, tout le monde les connaissait, et on savait qui c'était. Ce coup-ci, on est très loin hein, de ce qui s'était passé du temps d'Élie, où il a dû fuir, où il était le dernier des prophètes, et où Jézabel faisait la pluie et le beau temps. Donc, il y a vraiment eu un changement en profondeur dans les pratiques en Israël. Et là, le principal reproche qu'on lui fait, c'est de n'en avoir fait justement qu'à sa tête. Il y a des prophètes qui sont présents, ils sont là, tout le monde les connaît, on sait où ils sont. Non, le roi a décidé d'agir à sa guise et de faire ce qui lui plaît. Pourtant, le Seigneur s'était réservé cette bataille, le Seigneur s'était réservé cette armée, le Seigneur s'était réservé le droit d'agir comme il avait envie vis-à-vis du roi Ben-Hadad. Il voulait une victoire totale, il s'était voué ce roi par l'interdit. Il voulait une victoire totale. Or, cette victoire lui a échappé à cause de l'attitude d'Akab. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Akab? S'il était allé chez les prophètes et qu'il avait demandé, la réponse qu'on lui aurait donnée, ça aurait été celle-là. Ton peuple périra à la place du sien. Ce qui aurait dû se passer, c'est les gens qui étaient dans cette ville, Les gens qui sont venus attaquer Israël, eh bien, ils auraient dû périr. Ils auraient dû mourir. Le roi Ben-Hadad aurait dû mourir. Mais puisqu'il ne l'a pas fait, il prendra sa place. Tu as voulu en faire qu'à ta tête? Eh bien, ta récompense, tu vas l'avoir maintenant. Tu as voulu briller, tu as voulu t'élever, tu as voulu prendre la victoire à ton compte, tu as voulu me voler la gloire. Eh bien, tu prendras la place de ton ennemi. Ton ennemi, ce que moi, je voulais, c'est qu'il soit voué par interdit et que tu le passes par les armes. Alors maintenant, c'est toi qui ne mourras pas à sa place. L'Éternel a restitué en Israël son autorité. L'Éternel est de nouveau présent au travers de ses prophètes en Israël. Ces prophètes n'ont plus besoin de se cacher. Ces prophètes peuvent s'exprimer. Ces prophètes font des disciples. Il y a donc de nouveau des écoles de prophètes dans le pays. Et Jézabel a perdu de sa superbe. Jézabel, on n'en entend même plus parler. Et donc maintenant, on va voir comment le diable va agir pour reprendre de nouveau de l'ascendant sur Akab. Comment est-ce qu'il va agir? Comment le diable va manipuler Akab pour le ramener dans le giron de Jézabel et sous son autorité satanique? Comment cette femme va faire? Quel subterfuge elle va utiliser pour ramener de nouveau le roi Akab sous sa coupe et sous son influence? Et donc Jézabel qui a dû la mettre en veilleuse, pour l'instant, eh bien, cela coulait douce, et puis raser les murs, eh bien, d'un seul coup elle réapparaît. Quelque temps après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth, un habitant de Jizréel, possédait une vigne à Jizréel, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab fit à Naboth la proposition suivante. « Cède-moi ta vigne, je voudrais en faire un jardin potager, car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure. Si tu préfères, je t'en payerai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de céder la propriété héritière de mes ancêtres. » Bah oui, il y avait une loi en Israël qui interdisait de céder. C'était la loi de l'Éternel, c'était la loi que Moïse avait transmise au peuple. Ou si on possédait une terre, cette terre ne pouvait pas être vendue, cette terre devait appartenir à la famille de génération en génération. Céder cette terre, c'était violer la loi de l'Éternel. La vôtre, c'est absolument impensable de violer la loi de l'Éternel. C'était vraiment quelqu'un qui était attaché au Seigneur, qui était attaché à sa loi. Et même pour le roi, il n'aurait pas violé cette loi. Donc pour lui, la loi du Seigneur, la loi de l'Éternel, était supérieure à la volonté du roi. Akab rentra chez lui maussade et abattu, parce que Naboth de Jizréel lui avait dit qu'il ne lui céderait pas la propriété héritée de ses ancêtres. Il se jeta sur son lit, tourna le visage contre le mur et refusa de manger. Sa femme, Jézabel, vint le trouver et lui demanda, « Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur et refuses-tu de manger ?» Il lui répondit, « Je parlais à Naboth de Jizréel et je lui ai proposé de lui acheter sa vigne, ou, s'il préférait, de l'échanger contre une autre. » Mais il m'a répondu, « Je ne céderai pas ma vigne. » Alors, Jézabel lui dit, « Est-ce toi qui exerces la royauté sur Israël? Allons, lève-toi, mange et réjouis-toi. La vigne de Naboth de Jizréel, je vais te la donner, moi. » Qu'est-ce qui... Là, encore une fois, qu'est-ce qui se passe là, de nouveau? Jézabel a trouvé un moyen de rentrer de nouveau dans les faveurs d'Akab, de manipuler Akab et de prendre de l'ascendance sur lui. Qu'est-ce qui se passe là? On peut aisément comprendre que, après tous les événements qui se sont passés, avec ce qui s'est passé au Carmel, avec les batailles qui ont eu lieu, les victoires qu'a données l'Éternel, les sanctions des prophètes, toutes ces choses-là, Akab et dit à Jézabel, ce serait mieux pour toi que tu t'écrases, et puis qu'on ne t'entende plus, et que tu te fasses toute petite, parce que sinon je ne donne pas cher de ta peau. Le peuple ne t'aime pas, le peuple ne te supporte pas, et si tu te montres, si tu t'exprimes, ah ben, tu n'y survivras pas. Bon, si là, en l'occurrence, Akab a eu un minimum de sagesse, un grain de lucidité, il l'aurait renvoyé. Il l'aurait renvoyé chez son père, à Tyr, et il aurait dit, bah, écoute, tu n'as rien à faire dans mon palais, tu n'as rien à faire chez moi. Mais alors, encore une fois, chassé naturel, il revient en galop. Et évident qu'un roi qui fait alliance avec un prisonnier qu'il a devant lui, hein, simplement parce qu'il voit l'avantage qu'il peut en tirer, ah bah, ce roi-là, qui fait plus de politique qu'il fait confiance au Seigneur, bah, il dit, si je renvoie à Jézabel au roi de Tyr, ah bah, je vais m'attirer l'inimitié du roi de Tyr, et puis ça va me poser des complications avec le roi de Tyr. Bon, il a gardé Jézabel, simplement en lui disant, bah, écoute, tu restes au palais, mais tu t'écrases, je ne veux pas entendre parler de toi. Et donc, elle a dû faire œuvre de soumission, et puis certainement que pendant. Elle a attendu que l'orage passe, hein, et puis qu'elle a laissé passer le temps, et elle a attendu le moment favorable, l'opportunité qui lui permettrait de nouveau de prendre de l'ascendant. Et puis là, elle se dit, ah, voilà, ça, ça va être bien. Donc là, le roi convoite un terrain, il ne peut pas l'avoir, parce que la loi de l'Éternel l'interdit. Donc là, c'est absolument formidable. Je vais faire d'une pierre deux coups. Elle dit, je veux reprendre l'initiative dans un sens où je vais m'opposer à la loi de l'Éternel. J'ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, pour moi, l'Éternel, ce n'est pas mon Dieu, et puis ce n'est pas mon autorité. Et je vais faire plaisir à mon époux. Et comme ça, je regagnerai les faveurs de mon époux, et en même temps, je l'éloignerai de ce Dieu auquel il est actuellement soumis. Puisque s'il récupère ce terrain-là, s'il l'acquiert, eh bien, c'est qu'à quelque part, il aura violé la loi de l'Éternel. Et que donc, une fois de plus, ben, il n'écoute pas la voix du Seigneur, il s'en détourne, et pire, ben, il l'enfreint. Et là, la Finaude, elle a flairé le bon coup, et puis elle s'est dit, ah ben, ça c'est une occasion à pas louper. Donc Jézabel lui promet ce terrain. Ben, elle ne lui dit pas comment elle va faire pour l'avoir. Elle écrit des lettres au nom d'Akab, les Sela du sceau royal, et les fit porter aux responsables et aux magistrats de la ville où demeurait Naboth. Dans ses lettres, elle leur ordonnait « Proclamez un jour de jeûne, installez Naboth au premier rang de l'assemblée et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Puis, menez-les en dehors de la ville et tuez-les à coups de pierre. » Les gens de la ville de Naboth, les responsables et les magistrats, concitoyens de Naboth, obéirent à l'ordre de Jézabel et firent ce qu'elle demandait dans les lettres qu'elle leur avait envoyées, proclamèrent un jeûne et firent asseoir Naboth au premier rang de l'assemblée. Les deux vauriens vinrent se placer en face de lui et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi. Alors, on le fit sortir de la ville et on le tua à coups de pierre. » Puis, les autorités de la ville envoyèrent dire à Jézabel « Naboth a été exécuté à coups de pierre. Il est mort. » Alors là, chapeau. Jézabel fait un truc qui est vraiment fantastique. Elle utilise la loi de l'Éternel à ses fins. Elle l'utilise comme un instrument de destruction. Et pour ce faire, bah, qu'est-ce qu'elle va, comment est-ce qu'elle va agir? Ah, bah, déjà, elle va corrompre le peuple qui s'exécute, le peuple qui obéit. Donc, on se rend compte qu'en Israël, malgré l'action d'Élie, malgré l'action des prophètes, malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré la présence actuelle du rétablissement de nouveau de l'autorité divine, eh ben, le cœur du peuple est chancelant. Chancelant entre ses habitudes classiques qui sont de servir l'Éternel tout en adorant des idoles. Après tout, pourquoi gêner? Si on peut ramasser des deux côtés, eh ben, faisons-le. Et donc, Jézabel, faisant preuve d'autorité, usurpant l'autorité du roi, se faisant passer pour le roi, eh bien, ordonne d'enfreindre la loi du Seigneur, c'est-à-dire de faire un faux témoignage, de mentir, de condamner injustement une personne, et ça, en utilisant la loi du Seigneur. Parce que la loi du Seigneur disait que quelqu'un qui maudit Dieu, eh bien, il faut qu'il soit exterminé. Donc on fait deux choses qui sont des parfaits contraires. C'est-à-dire, on utilise la loi de Dieu en l'enfreignant. Il est clair que faisant ça, on ne peut pas faire mieux que de provoquer la colère du Seigneur. Par contre, Jézabel sait qu'en agissant ainsi, elle amoindrit l'autorité de l'Éternel. Parce que si les gens obéissent à ce genre d'ordre, ah ben ça veut dire qu'ils ne craignent pas le Seigneur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas à cœur d'obéir, c'est qu'ils ne sont pas attachés à l'Éternel. Si on viole la loi, qu'on utilise cette loi comme un instrument pour arriver à des fins politiques, mais mercantiles, eh ben c'est que vraiment on n'a pas de considération pour le Seigneur et qu'on ne le respecte pas. Et donc c'est un test, c'est une manière d'agir et de voir ce qu'elle peut faire avec le peuple. S'ils obéissent, ah ben, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment attachés au Seigneur. S'ils obéissent, ils se mettront en inimitié contre Dieu. Et donc ils reviendront vers moi. Ils vont être frappés de malédiction, et donc ils vont venir chercher du secours près de moi. Elle est, dans ce cas de figure, gagnant à tous les coups, à partir du moment où les hommes cèdent à son injonction, cèdent à sa demande. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont agir comme la reine le veut, et Naboth le juste va être tué. Il va être tué parce qu'on applique la loi de l'Éternel. On l'applique parce que les moyens qu'on va utiliser, ah bah, c'est les moyens du diable. Le diable a toujours été, depuis le début, on nous l'a toujours enseigné, un meurtrier. Et là, c'est vraiment l'esprit du diable qui agit. Il utilise le meurtre pour rétablir son autorité. Il viole la loi de l'Éternel. Il la réduit à néant. Il la foule aux pieds. Et ce faisant, il sait qui va attirer la colère de l'Éternel sur les gens qui agissent de cette manière-là. Donc là, c'est vraiment une manière d'agir qui est classique chez le diable. Le diable, son esprit repose sur Jézabel. Il ne fait pas n'importe quoi, il ne le fait pas de manière idiote ou stupide. On aurait pu imaginer qu'il agit de manière différente. C'est-à-dire, Jézabel envoie un tueur la nuit dans la chambre de Naboth pour l'assassiner. Ou bien, on l'empoisonne. Ben non, parce que sinon, ça aurait reporté le problème sur la famille, puisque le terrain, il aurait été, après, la propriété des héritiers. Et donc, comme ça, d'héritier en héritier, ce terrain lui aurait toujours échappé. Non, elle voulait ce terrain. Le seul moyen de l'avoir, ben, c'est d'utiliser la loi de l'Éternel. Le seul moyen de priver de son héritage une personne, ben, c'est de la déposséder de cet héritage, c'est de lui voler cet héritage. Et là, on lui a volé par le mensonge, par la duperie et la tromperie. On viole la loi de l'Éternel pour arracher l'héritage de cette personne, l'héritage que le Seigneur lui-même a donné à Naboth. Donc c'est un vol auquel on a ajouté le meurtre. Lorsque Jézabel, après que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, va prendre possession de la ville de Naboth de Jizréel qui a refusé de te la vendre, car Naboth n'a plus envie. Il est mort. » Lorsqu'il entendit que Naboth était mort, Akab se mit en route pour se rendre à la ville de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Jézabel se remet en selle, elle reprend l'initiative au travers d'elle, Satan, le diable. Le combat recommence de nouveau avec la même intensité et avec les mêmes intervenants. Cette fois-ci, ça ne pourra plus être un disciple de prophète ou un prophète classique qui va intervenir à ce niveau-là. Il y a ce degré d'autorité, puisque là, c'est le diable qui agit, c'est-à-dire une des principautés les plus importantes qui gouvernent ce monde. Eh bien, il va falloir lui mettre en face une autorité qui soit aussi forte, aussi puissante et aussi représentative. Et donc là, Élie revient de nouveau. L'autorité de l'Éternel, la voix de l'Éternel. Alors l'Éternel adressa la parole à Élie de Tishbé en ces termes. Mets-toi en route. Va trouver Akab, le roi d'Israël, qui vit à Samarie. En ce moment, il se trouve dans la ville de Naboth, où il est allé pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel. Quoi ? Après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens ? Tu ajouteras, voici ce que déclare l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. En voyant Élie, Akab s'écria, « Ah, tu vois là mon ennemi, tu m'as donc retrouvé !» Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé, parce que tu t'es vendu toi-même au mal en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Eh bien, voici ce qu'il déclare, je vais te frapper d'un grand malheur, je te balayerai de la surface de la terre, toi et ta descendance, je retrancherai d'Israël tous les hommes de ta famille. Qu'ils soient esclaves ou hommes libres, je traiterai ta famille comme celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Baécha, fils d'Aïa, parce que tu m'as irrité et que tu as entraîné Israël dans le péché. L'Éternel annonce aussi quelque chose concernant Jézabel. Les chiens la dévoreront près du rempart de Jisréel. Tout membre de ta famille, Akab, qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les rapaces. En vérité, personne ne s'était jamais vendu au mal autant qu'Akab en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. C'est que sa femme Jézabel l'y poussait. Il agit de façon abominable en adoptant le culte des idoles, tout comme les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. Donc là, c'est reparti, il y revient, et dès qu'il le voit, il va dire « Te voilà mon ennemi !» Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre Élie et Akab, les relations n'étaient pas au beau fixe. On peut aisément comprendre que lorsque Élie allait vers le roi, c'était vraiment que le Seigneur l'y poussait, parce qu'il ne l'aimait pas. Et Jézabel, on n'en parle même pas. Si ça n'avait dépendu que de lui, il l'aurait massacré. Mais Élie était obéissant, Élie respectait la volonté du Seigneur, et ne faisait que ce que l'Éternel lui demandait de faire. Et là, en l'occurrence, il l'envoie au devant du roi, qui, dès qu'il le reconnaît, à son sang ne fait qu'un tour, parce que les seuls souvenirs qu'il avait d'Élie, c'était toujours des mauvais souvenirs. Et là, en l'occurrence, il reconnaît tout de suite dans Élie l'homme d'exception. L'homme intransigeant, l'homme qui ne recherche pas les honneurs, l'homme qui se met à part, parce qu'Élie, c'était l'homme du désert, c'était l'homme de la solitude, c'est l'homme qui se balade avec un manteau de chèvre et qui se contente de la présence du Seigneur, qui recherche la présence du Seigneur, qui ne vit bien qu'avec le Seigneur. Et ça ne l'intéresse pas d'être dans les palais, d'être avec les riches, d'être avec le monde. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre avec le Seigneur. Et donc, ça lui a donné un caractère particulier, ça lui a donné une nature tout à fait particulière. Pour lui, Akab, c'était vraiment la figure la plus mauvaise. C'était vraiment l'exemple le plus mauvais de ce qui peut se trouver dans l'humanité. Et vraiment, il ne le supportait pas, il ne l'aimait pas. Et pour lui, il était mieux qu'il soit le plus loin possible. Akab avait autour de lui des prophètes. Ces prophètes avaient des disciples. On se fréquentait, on se voyait, ils les connaissaient. Et il n'y avait pas de problème particulier. La coexistence était possible, mais pas avec Élie. La première des choses qui lui dit « Te voilà mon ennemi ». Il n'a pas dit ça aux disciples des prophètes, aux prophètes qui venaient vers lui. Il ne disait pas que c'était des ennemis. Je suis persuadé qu'il les écoutait, qu'il suivait leurs conseils. Mais avec Élie, le courant ne passe pas. Parce qu'ils étaient de nature diamétralement opposés. Toutes les valeurs que représentait Akab étaient l'inverse de celles d'Élie. Et donc forcément, entre les deux hommes, une profonde inimitié était installée. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit un habit de toile, à même la peau, et refusa de manger. La nuit, il dormait dans ses vêtements. Et le jour, il se traînait à pas lent. Alors l'Éternel adressa de nouveau la parole à Élie de Tishbé et lui dit « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Puisqu'il s'est humilié ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Mais c'est durant le règne de son fils que j'amènerai la catastrophe sur sa famille. » J'aime bien le dialogue entre l'Éternel et Élie. On se rend compte qu'il y a une véritable complicité, très grande proximité entre le Seigneur et le prophète. Puisque les deux dialoguent. Ils ont un échange. C'est un petit peu comme un ami qui parle à un ami et qui dit « Écoute, t'as vu Akab, ce qu'il a fait ?»« Écoute, franchement, moi ça me touche. Moi ça me... Je considère qu'il est sincère et... parce qu'il a agi ainsi. » Ben, je ne frapperai pas lui, je ne frapperai pas sa famille. Et en l'occurrence, ce n'est pas quelque chose qu'il dit à Akab, c'est quelque chose qu'il dit à Élie. C'est une discussion intime, c'est une discussion qu'on fait loin du regard des autres, loin des oreilles des autres, mais c'est une confidence que le Seigneur il fait à Élie. Et Élie doit vivre avec ça. Élie doit vivre avec cette parole de l'Éternel dans son cœur. Et moi, je suis intimement convaincu que quand le Seigneur il a dit ça à Élie, ça n'a pas dû forcément le réjouir. Ça n'a pas dû lui faire spécialement plaisir. Mais bon, puisque c'est la volonté du Seigneur, puisque c'est son désir, eh bien, on l'accepte. Bon, on va arrêter là, parce que le temps a déjà bien passé. On poursuivra avec le cycle d'Élie. On verra comment les événements vont se dérouler dans le futur et comment va réagir Akab dans l'avenir, comment Israël va s'accorder avec la nouvelle politique qui est en vigueur maintenant dans le pays.